Activité 12. Exercice 2.
Bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet sensible. La précarité des salaires dans certains domaines professionnels. Pour en discuter, nous recevons Élise Maurice, sociologue du travail. Bonjour Élise.
Bonjour.
Merci de m'avoir invitée. Alors, quand on parle de salaire précaire, de quoi parle-t-on exactement ? On parle d'emplois dans lesquels les revenus sont insuffisants pour vivre décemment, malgré un emploi à temps plein. Cela concerne souvent les secteurs du soin, de l'éducation, de la culture ou encore de la restauration. Ce sont pourtant des métiers essentiels ? Exactement. Et c'est bien là le paradoxe. Ces professions sont au cœur du bon fonctionnement de notre société, mais elles sont souvent sous-valorisées économiquement. Par exemple, les aides à domicile, qui accompagnent les personnes âgées, touchent parfois à peine le SMIC. Elles travaillent tôt le matin, tard le soir, souvent en horaires coupés, pour des revenus très bas. Y a-t-il des différences selon les régions ou les statuts ? Oui, bien sûr. Une assistante maternelle, en zone rurale, peut gagner bien moins qu'en ville. Et dans le secteur culturel, un musicien, intermittent, peut alterner entre périodes de forte activité et longues périodes sans contrat. Cela crée une instabilité financière constante. Le statut de freelance ou de contractuel ne garantit pas non plus une sécurité salariale. Et le télétravail, est-ce une solution à cette précarité ? Pas vraiment. Le télétravail peut être un atout dans certains cas, mais il ne résout pas le problème des faibles revenus. Une traductrice freelance qui travaille de chez elle reste exposée à des tarifs très bas. Et souvent, elle doit multiplier les contrats pour atteindre un revenu acceptable. Cela peut même accentuer la précarité, car il y a peu de protection sociale. Quels sont les impacts de cette précarité sur le quotidien des personnes concernées ? Ils sont nombreux. D'abord sur le plan psychologique. Anxiété, stress permanent, fatigue liée à la charge de travail. Ensuite, sur le plan matériel, il est difficile de se loger correctement, de se soigner ou d'épargner. Certaines personnes n'osent même pas prendre de vacances, par peur de perdre un contrat ou de ne pas être payées. Y a-t-il une prise de conscience du côté des pouvoirs publics ? Oui, mais elle reste incomplète. Des mesures ont été mises en place, comme la revalorisation des salaires dans certains secteurs, notamment après la crise sanitaire. Mais dans la pratique, les hausses sont souvent modestes et les conditions de travail n'évoluent pas toujours en parallèle. Et du côté des employeurs ? Certains font des efforts. Par exemple, dans la restauration, certaines entreprises proposent des primes, des horaires plus stables ou des aides au logement. Mais cela dépend beaucoup de la taille de la structure et de sa capacité financière. Dans les petites associations, les marges de manœuvre sont limitées. Que faudrait-il changer selon vous ? Il faut reconnaître la valeur réelle de ces métiers. Cela passe par une meilleure rémunération, mais aussi par une amélioration des conditions de travail. Plus de stabilité, moins de pression, un vrai respect des horaires. Il faut aussi renforcer la protection des travailleurs indépendants. Ils sont de plus en plus nombreux, mais très peu protégés. Un dernier mot pour conclure ? Oui, on parle souvent de précarité comme d'un problème marginal, mais aujourd'hui, elle touche une part croissante de la population active, y compris des jeunes diplômés. C'est un enjeu majeur pour notre société. Si on veut garantir l'égalité, et le bien-être de tous.